Quand les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à notre rencontre de ce soir, consacrée aux pratiques préliminaires du Vajrayana, du Mahamudra, du Dzogchen, selon la tradition Champa et sa lignée d'Achan Kayu, telle que nous l'avons héritée de Vajradhara Kalorimpoche. Nous avons la dernière fois vu une introduction générale. Nous allons maintenant commencer par les préliminaires communs. Il y a 4 préliminaires communs et 6 préliminaires spéciaux. Les 4 préliminaires communs sont dits communs parce qu'ils sont communs à toutes les pratiques, à toutes les voies. Ils ne sont pas spécifiques au Vajrayana. Ce sont des préparations, des préliminaires qu'il est important, qu'il est indispensable d'intégrer, quelle que soit la voie universelle ou initiatique que l'on suive. Ces 4 préliminaires communs sont des méditations, des méditations, on peut dire, fondamentales sur la précieuse existence humaine, libre et qualifiée, de l'impermanence et la mort, 3, le karma, cause et conséquence des actes, et 4, le samsara, le cycle des états de la conscience. Ces préliminaires communs sont nommés en tibétain les Lodonamshi, ce qui littéralement signifie les 4, on peut dire méditations, qui transforment notre mentalité, qui renversent notre mentalité, qui convertissent notre mentalité, qui révolutionnent notre mentalité, qui opère un retournement de mentalité et qui nous permet que notre mentalité prisonnière d'attachement, de passion, de saisie, puisse se retourner, se libérer, et d'une mentalité samsarique, aller vers, on pourrait dire, une mentalité nirvanique ou d'une mentalité de conditionnement, aller vers la libération. Donc, vous êtes de toute façon déjà familiers tous avec ces 4 méditations fondamentales. Un texte particulier est ici à présenter. Nous allons, pour ceux qui font la pratique formelle des préliminaires, parcourir ce texte. Nous lisons le début, l'introduction de Jamdön Rinpoche. Les préliminaires communs, les 4 méditations fondamentales. Comme il fut dit précédemment dans les Vajrapada, les fortunés, les pratiquants fortunés, dont les courants existentiels ont été mûris par l'initiation et l'influence spirituelle, pratiqueront sur les bases de la confiance et de l'énergie. Donc, la consécration, le lien, la connexion spirituelle, et ensuite la pratique de se développer sur une base de confiance et de courage, d'énergie. Quand ils s'appliqueront au principal des enseignements, ils commenceront, suivant la progression générale des instructions, en se stimulant avec les quatre méditations inversant la mentalité. C'est l'Odonamshi. C'est très important. Pour se les remémorer, ils peuvent utiliser n'importe quelle formule adéquate. Néanmoins, en voici une en guise de plan. Donc, nous avons l'habitude de la formule très concise que nous pratiquons le soir. Ici, il est une formule plus développée et détaillée. Premièrement, la considération de la précieuse existence humaine, libre et qualifiée, difficile à trouver. Alors, déjà, la précieuse existence humaine, précieuse car libre et qualifiée, difficile à trouver et facilement perdue. Et en ce sens rare, et rare donc précieuse. Et cette méditation sur la précieuse existence humaine nous incite à donner à notre vie humaine son sens, à la consacrant notre vie avec ses libertés, ses qualifications à l'essentiel, c'est-à-dire à l'aventure sacrée, l'aventure suprême de la libération pour le bien de tous les vivants. Cette méditation aussi sur la précieuse existence humaine nous révèle les qualifications et les libertés qui sont les nôtres, libertés et qualifications, et amène dans cette prise de conscience aussi une confiance en soi. L'éveil est en soi, nous avons les qualités nécessaires pour le réaliser et nous avons la liberté pour nous y consacrer. Le texte dit « Doté des 8 libertés et des 10 qualités, ce corps humain, encore plus précieux qu'un divin, est semblable au joyau que trouverait un mendiant. » Alors, la méditation sur la précieuse existence humaine peut se développer en considération sur les 8 libertés et les 10 qualités ou qualifications. Il y a 8 libertés qui consistent en le fait d'être libre des états où l'on n'est pas disponible pour la pratique du dharma, que ce soit les états des distances inférieures et même ceux des dieux de longue vie ou des états dans lesquels on est asservi, conditionné en des circonstances en lesquelles l'on n'est pas libre, l'on n'a pas la liberté, la capacité ainsi de pratiquer. Pour les étudier en détail, je vous renvoie aux traités classiques tels que le chemin de la grande perfection ou les commentaires détaillés sur les préliminaires. Pareillement, pour les 10 qualités, dont 5 sont des qualités qui nous concernent en propre et 5 sont des qualités de l'environnement. Les qualités qui nous concernent en propre et d'être humain avec toutes les facultés, les possibilités de l'existence humaine dans sa complétude, et les qualités qui concernent l'environnement. Il s'agit que l'enseignement soit présent dans l'environnement, qu'un Bouddha soit venu, qu'il ait enseigné, que sa tradition, sa transmission perdure et que l'on puisse disposer, grâce à la bonté de ceux qui en sont les héritiers, des circonstances favorables à la pratique. Et il est important d'examiner sa situation et de voir que l'on est doté véritablement de ces 8 qualités et de ces 8 libertés. Et c'est ainsi que ce corps humain, libre et qualifié, est extrêmement rare et précieux, encore plus précieux même qu'une existence divine. Il est semblable au joyau que trouverait un mendiant, alors que l'on est dans la pauvreté d'une existence commune. Ce précieux corps humain est le joyau, la richesse qui peut nous permettre de réaliser, d'accomplir tout ce que l'on souhaite. De même façon, cause, nombre, exemple, comprend qu'hormis maintenant, le trouver sera difficile. Alors, aussi pour méditer sur cette précieuse existence humaine libre et qualifiée, l'on considère sa cause, qui est la discipline, un comportement éthique sain, rare donc précieux. On considère des nombres, des rapports quantitatifs par rapport à toutes les possibilités d'existence. Les êtres dans les états infernaux sont innombrables, incommensurables, plus nombreux que les particules de terre, les grains de terre de la terre. Les esprits avides comme sable sur berge du Gange, etc. Il est des rapports quantitatifs à considérer pour chaque état d'existence. Les humains sont aussi rares que, d'une façon générale, sont nombreux comme les étoiles. La précieuse existence humaine est rare comme l'étoile diurne. Donc, ainsi des nombres et des exemples dont le plus célèbre est l'exemple de la tortue. L'ensemble des possibilités des distances est une immensité, l'océan des possibles. Et dans cet immense océan des possibles, il est une tortue qui est ici le symbole de la conscience, une tortue aveugle qui nage dans le grand océan, et comme elle est aveugle, elle ne sait pas où elle va, elle n'a pas de visibilité, et cette tortue aveugle fait surface tous les 100 ans. À la surface du grand océan est un joug de bois. Vous savez, à l'ancienne, un joug, c'est il y a un cercle, donc comme un cercle de bois, qui dérive à la surface du grand océan, aux quatre orients, au gré du vent. Et l'on dit que la probabilité que la tortue aveugle, faisant surface tous les 100 ans, enfile son cou au centre de ce joug de bois est supérieure à celle d'obtenir la précieuse existence humaine. Rare, probabilité faible. Comprends qu'hormis maintenant, le trouver, ce précieux corps humain, sera difficile. Très rare, très difficile, et il s'agit ainsi de prendre conscience de sa valeur et de se motiver pour le bien utiliser. De plus, il est impermanent, semblable à une bulle d'eau. Comme la bulle d'eau, il peut crever à chaque instant. Il sera vite détruit. Et alors, hors du dharma, rien n'aura la moindre utilité. Au moment de la mort, c'est le dharma son expérience intégrée, qui est la seule chose qui soit vraiment et profondément utile. Aussi vais-je m'entraîner en la profonde voix qui est la quintessence de tout dharma sacré, la profonde voix des dakini, la profonde voix de la tradition, la profonde voix du Vajrayana, qui est la quintessence de tous les enseignements des 84 000 dharmas, de tout dharma sacré. Deuxièmement, la considération de l'impermanence et de la mort. Le monde, habitacle, est détruit par le feu et l'eau. Alors, on va considérer l'impermanence du monde et l'impermanence des personnes, l'impermanence de l'habitat et l'impermanence des habitants. Le monde, habitat, habitacle, se manifeste dans un cycle. La manifestation cosmique est cyclique. Il est ainsi ce qu'on nomme des kalpas, des éons, des temps, des cycles cosmiques. Et les différents cycles cosmiques ont des périodes d'apparition et de destruction, une sorte de... Aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait dire de Big Bang à Big Crush, mais en tout cas d'apparition et de disparition. Et dans la disparition, il est des destructions de l'univers de plus en plus profondes, la profondeur de ces destructions étant exprimée par les éléments de plus en plus profondément, et ainsi particulièrement par le feu et l'eau. Jour, mois, quatre saisons changent d'instant en instant. Donc, il y a l'impermanence sur une grande échelle, les kalpas, et il y a ensuite l'impermanence instantanée. D'instant en instant, continuellement, instantanément, tout change. Jour, mois, quatre saisons, comme une flèche décochée qui va vers sa cible, comme l'eau qui coule dans une rivière, d'instant en instant, changement sans arrêt. Tout est soumis aux quatre fins de l'impermanence. Les quatre fins de l'impermanence est que tout ce qui a été accumulé s'épuise, tout ce qui a été érigé finit par s'écrouler, tout ce qui s'est rencontré finit par se séparer, et tout ce qui est né finit par mourir. Les quatre fins de l'impermanence. Et particulièrement, il n'est pas de choses nées qui ne viennent à mourir. Tout ce qui est né meurt, tout ce qui est composé se décompose. Et cette vie est comme éclair ou goutte de rosée, comme l'éclair, instant lumineux, éphémère, ou goutte de rosée, perle qui s'évapore à l'aurore. De demain ou de la vie qui sera la prochaine, personne ne sait ce qui viendra à ton premier. Nul n'est sûr d'être encore en vie demain. de demain ou de la vie qui sera la prochaine, personne ne sait ce qui viendra en premier. Qui ne pratique le dharma présent à l'esprit, emporté par les démons, paresse et distraction, ne pourra que s'en aller tout nu et les mains vides. Si l'on ne pratique pas le dharma lorsqu'il est présent à notre esprit, l'on sera emporté par ces démons que sont paresse et distraction, et finalement, l'on s'en ira tout nu et les mains vides, du point de vue du dharma, c'est-à-dire sans rien. Aussi vais-je vite pratiquer le pur dharma. Cette résolution et détermination qui est la conclusion de la méditation sur l'impermanence. Troisièmement, la considération des causes et conséquences des actions. L'action dans son déroulement, cause et conséquence, est ce que l'on nomme karma, donc la méditation sur le karma, c'est-à-dire sur les causes et conséquences des actions. Toute action est une cause qui a des conséquences. Les bonnes actions ont de bonnes conséquences, les mauvaises actions ont de mauvaises conséquences, au sens où les bonnes actions ont des conséquences heureuses et les mauvaises sont celles qui ont des conséquences douloureuses, que ce soit pour autrui ou pour soi-même. Les deux fonctionnant ensemble. Jamjon Rinpoche dit « Au moment de la mort, même en ayant les pouvoirs d'un chakravartin, » le chakravartin est le monarque universel, le roi à la roue, le roi qui est dans le cycle du temps, c'est l'archétype du monarque universel et du monarque sacré qui a les plus grands pouvoirs possibles. Donc, au moment de la mort, même en ayant les pouvoirs d'un chakravartin, il faudra tout abandonner. Abandonner tout ce que l'on possède, abandonner même son corps et s'en aller solitaire, errer en le bardo. Les conséquences de nos actions, blanches ou noires, blanches positives, noires négatives, nous suivent infailliblement comme l'ombre le corps. Ce qui a été semé se récolte, il n'est rien qui n'ait été semé qui ne soit récolté, et il n'est rien qui se récolte qui n'ait été semé. Les actes accomplis ne disparaissent jamais, ceux qui ne l'ont été ne peuvent être rencontrés. Les conséquences des actes vont en s'amplifiant. Dans le karma, de petites causes peuvent avoir de grandes conséquences. Et un petit grain de sable est celui par lequel la montagne peut commencer à s'écrouler. Un battement d'ailes de papillon peut déclencher une tempête. En tout cas, il y a une intelligence ici particulière au fait que les conséquences des actes vont en s'amplifiant et donc d'être particulièrement attentif, fût-ce aux petits actes et aussi à ne pas laisser de mauvais actes perdurer et savoir les dissiper, contrecarrer, purifier au plus tôt. Leurs fruits, bons ou mauvais, sont les bonheurs ou malheur qui mûrissent inéluctablement pour leur auteur. Alors, les fruits bons ou mauvais, bon bonheur, mauvais malheur ou souffrance, mûrissent inéluctablement dans la continuité de leur auteur. Cette méditation sur le karma qui inspire l'attention à nos comportements et un sentiment de responsabilité, une attitude attentive et responsable dans la vie et dans toutes nos activités. La vie de ce monde ne dure qu'un bref instant, mais l'existence cyclique perdure sans fin. La vie de ce monde éphémère, mais l'existence cyclique, le samsara, dans ses cycles, perdure indéfiniment. Aussi, maintenant, je ne vais me faire de tort, je ne vais pas me faire de choses négatives, je ne vais pas me créer ma propre souffrance. Et ainsi, d'une façon générale, convaincu de la causalité universelle, convaincu de la causalité karmique, et particulièrement sachant garder mes engagements, mes vœux et mes liens sacrés, samaya, je ne me souillerai pas de ce qui est mauvais. Je serai attentif à ne pas me contaminer par ce qui est malsain. Donc ainsi, cette méditation sur le karma. Et quatrièmement, il y a la méditation sur le samsara, les défauts du samsara, ce qu'il y a de mauvais, de douloureux dans l'existence cyclique, dans les cycles de la conscience qui sont ceux du samsara. Des sommets de l'existence au fin fond des enfers, tous les lieux du samsara, du plus haut au plus bas. Alors, déjà le samsara est la conscience dans son cycle existentiel, dans son cycle de manifestation. Et tous les états de la conscience, les états multiples de la conscience sont traditionnellement présentés dans le paradigme des trois mondes. Le monde des passions, le monde de la forme pure et le monde sans forme. Au plus bas, ce sont des états de conscience des plus duels et polarisés aux moins duels et moins polarisés. Les plus duels douloureux sont nommés les états infernaux, qui sont les plus bas, et les plus hauts, ce sont les états divins sans forme, les états de la conscience dans ce que la conscience peut avoir de plus subtil comme conscience de l'espace infini ou même d'une conscience infinie, rien ou de ni perception ni non-perception. En tout cas, tous les lieux du samsara, du plus haut au plus bas, ne sont jamais des circonstances de vrai bonheur et sont semblables au brasier ardent ou forêt de rasoir. Brasier ardent et forêt de rasoir sont les noms d'états infernaux dits périphériques dont les souffrances éprouvées sont en relation avec leur nom. Brasier ardent, ce sont des chemins de braise ardente dans lesquels on enfonce son pied qui brûle et crame complètement. On le lève, il revient, on enfonce le suivant, il se consume, etc., etc. Et à chaque pas, il y a cette souffrance d'une brûlure dans sa chair et jusqu'à l'os. Ou forêt de rasoir, une sorte de jungle où toutes les feuilles sont rasoirs, où l'on court en étant déchiqueté et tranché de tous côtés. Donc, c'est dire qu'on en prend ne sont jamais des circonstances de vrai bonheur. Vous pourrez regarder ces états infernaux. Ils décrivent des souffrances réelles, physiques ou psychologiques, extrêmement intenses, qui sont en rapport avec différents types de comportements malsains. Et depuis toujours, nous avons erré en son cycle, en le cycle du samsara, où l'ignorance et ses cycles illusoires ne cessent. La racine du samsara est l'ignorance, l'ignosance, la dualité et les cycles illusoires de la conscience qui ne cessent et s'autogénèrent en longue série indéfinie. À présent, me stimulant par un irrésistible désintérêt et une intense résolution, le désintérêt, c'est le non-attachement, ne pas s'attacher aux choses du samsara, aux possessions, à tout ce qui peut y avoir de captivant, susceptible de nous posséder dans ces états de la conscience. Désintérêt, c'est comme si l'on est un tigre, l'herbe pour le tigre ou le steak pour la vache. Dans les deux cas, c'est pas son truc. Donc, le samsara, c'est pas notre truc. C'est des intérêts. Et une intense résolution, une intense détermination d'éveil. Et ainsi, j'entre en la voie de délivrance définitive, la voie de l'éveil. Et suivant l'exemple de vie des maîtres d'antan, vais accomplir l'état de Bouddha en cette vie. Donc, il est important de connaître l'exemple de vie des maîtres d'antan, des maîtres de la lignée, des maîtres des lignées, tous les maîtres de la tradition, qui eurent une vie exemplaire et qui, dans une résolution et une énergie complète, ont accompli l'éveil, l'état de Bouddha de leur vivant. En suivant l'exemple de vie des maîtres d'antan, vais accomplir l'état de Bouddha en cette vie. Et il y eut différents maîtres d'antan, avec différents styles de vie, différents styles de pratique, mais tous eurent cette résolution, ce désintérêt pour les choses, les possessions et les choses du samsara dans un engagement, une détermination complète. Donc ainsi, ces quatre méditations. Et Jamgyon Rinpoche conclut en disant dans les petites lettres, qui sont les commentaires entre les pratiques, les textes que l'on peut réciter pour se remémorer, se stimuler, induire la méditation. Il dit, bien qu'il ne soit pas indispensable de réciter ces formules systématiquement au début de chaque session, les réciter de temps en temps en réfléchissant à leur sens évitera que nous nous endurcissions et tournera assurément notre esprit vers le dharma authentique. Donc, ces quatre méditations fondamentales évitent que nous nous endurcissions, que nous devenions durs, rigides, ou même fatigués, blasés. Ce sont des méditations extrêmement décapantes, rafraîchissantes et stimulantes. Donc on peut, et il est bien au début de les réciter systématiquement au début de chaque session, mais ça n'est pas une pratique. L'important n'est pas la pratique formelle. Il ne s'agit pas au début de chaque session de réciter du sommet des anges avant des enfers, de l'évier du samsara. Hein, il s'agit de méditer ce dont il s'agit, de l'avoir présent à l'esprit, d'en intégrer le sens et que ce soit une stimulation pour notre pratique. Et ces méditations tourneront assurément notre esprit vers le dharma authentique. C'est dans ce sens qu'elles ont ce pouvoir de conversion, voire même de révolution. C'est le premier pas de la pratique du dharma. Il est très important. Il est très important au début, au milieu, à la fin. Et Vajradhara Kalo Rinpoche enseignait ces quatre notions fondamentales quasiment au début de chacun de ses enseignements. Et quand certains de ses vieux disciples lui disaient à Rinpoche, les quatre notions fondamentales, on connaît, ça fait des années que vous les répétez. Mais oui, mais il ne s'agit pas de les avoir entendues, il s'agit de les intégrer. Je pourrais vous donner des tas d'enseignements variés et divers, attrayants, et tout ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas pétri de ces quatre notions fondamentales, si vous ne les portez pas en vous, d'autres enseignements plus élaborés ou plus compliqués ne seraient que peine perdue ou seraient graines sur un terrain qui n'est pas fertile. Donc, voici ces quatre préliminaires communs, méditation fondamentale. Si vous avez des remarques, des observations ou des questions, elles sont les bienvenues. S'il vous plaît.
Bonsoir. J'aimerais revenir sur le karma. Vous avez dit que par rapport au karma, ne pas prendre ce qui est mauvais de façon à, au moment de la mort, à ne pas être nu et à ne pas être pauvre, en fait, par rapport au dharma. Pensez-vous pas que dans la société dans laquelle nous vivons, c'est un peu plus délicat que par rapport à ce que les maîtres d'antan ont pu vivre? Aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation où tout est fait justement pour consommer et aussi pour nous distraire. J'entends par là les magazines, publicités. Il y a qu'à se promener et tout est là pour nous distraire. Alors que faire? Est-ce qu'on doit s'enfermer dans une grotte et à pratiquer les nundros?
Aujourd'hui, tout est peut-être plus difficile. Tout est peut-être plus facile. Alors, oui, la société de consommation, oui, la publicité, oui, la pornographie, oui, les stimulations multiples. Si l'on est Non, non. Elles sont multiples. Et donc, les sources de distraction, de déviation, de possession sont nombreuses. Mais aussi aujourd'hui, l'on a beaucoup de facilité. On a, somme toute, une vie facile. Dans les temps anciens, il n'y avait pas la sécu, il n'y avait pas le SMIG, il n'y avait, avait rien, et vous trimiez et vous gagniez votre vie à la sueur de votre front, dans le labeur. Le labeur, c'est labourer. Et donc, la vie aujourd'hui est somme toute plus facile. Aussi, les choses aujourd'hui vont plus vite. Alors, c'est un signe des temps. Il y a une accélération. Et si tout va plus vite, il y a plus de désordre, on pourrait dire d'entropie. Mais d'un autre côté, le fait que les choses aillent plus vite font que si l'on est sur la bonne voie et que l'on pratique bien, ça va aussi vite. Donc, il y a du bon et du mauvais. Il s'agit, prenez le bon et laissez le mauvais.
Mais je suis pas d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, à savoir qu'aujourd'hui, la vie est beaucoup plus facile qu'avant. C'est vrai que nous avons le chômage, le SMIC, et que la France est un État où il y a tout pour qu'on puisse s'en sortir. Mais la vie, elle est très très riche aujourd'hui, et c'est pas avec un SMIC qu'on peut s'en sortir. Donc c'est juste ce petit détail-là que je suis pas d'accord avec vous, Rinpoche, je suis désolé, mais...
C'est pas avec un SMIC qu'on peut s'en sortir ?
Pas vraiment, non. Parce que manger des pâtes, ou des patates tous les jours.
Et les yogis dans le temps, quand ils allaient dans une grotte, qu'est-ce qu'ils mangeaient ? Et Milarepa, qu'est-ce qu'ils mangeaient ? Ils mangeaient des orties, et quand on lui disait, et pour le sel, je rajoute encore un peu d'orties. Et Vajradhara Kalurimbache ou d'autres ermites yogis, ils mangeaient de la tsampa. Tous les jours, à tous les repas. Et okay. La tsampa avec...
Merci pour la claque Vajra, mais dites ça à une personne qui ne connaît pas justement le dharma, il vous dira la même chose que moi. Enfin.
Il vous dira la même chose que moi je lui répondrai la même chose. et c'est indubitable. Merci. Aujourd'hui, on est beaucoup plus mou. On est beaucoup plus timoré, fragile, hésitant, douillet. Peureux. Beaucoup plus mou. Et paresseux. Paresseux. Dans le temps, on n'avait pas vraiment le choix. On ne pouvait pas être paresseux. Paresseux, il mourait de faim. On n'avait pas. Donc, il y a beaucoup de facilité dans le monde moderne. Alors, j'admets qu'il y a aussi beaucoup de difficultés. Et c'est une des caractéristiques de l'époque dégénérée dans laquelle nous sommes, qu'il y ait plus de passion, qu'il y ait cette accélération, qu'il y ait plus de confusion. Et, bon, mais il est important de savoir prendre le bon côté et de transformer les circonstances adverses en voie d'éveil. Et donc, Parmi les qualités et les qualifications de la précieuse existence humaine, il est important de considérer les qualités et les qualifications qui sont nôtres aujourd'hui, qui sont réelles et qui sont grandes, et de savoir les mettre à profit et pas être à se dire « Ah, aujourd'hui c'est difficile, dans le temps c'était plus facile. » Non, non. Yes, you can. Vous pouvez. C'est possible. S'il vous plaît.
Une question de Namgyal Dalvar.
Namgyal, bonsoir.
Le déconditionnement au matérialisme n'est-il pas simplement accessible en nous rapprochant de la nature qui nous entoure ?
Le déconditionnement par rapport au matérialisme n'est-il pas possible simplement en se rapprochant de la nature qui nous entoure ? Il est bon de se rapprocher de la nature qui nous entoure, de la nature et de notre nature, les deux n'étant pas foncièrement différents, et se rapprocher de la nature fait sortir des concepts et du matérialisme avec toutes ces... il y a dans la culture moderne, on en parlait un petit peu à l'instant, des facteurs de... des stimuli multiples en termes de tout ce que l'on pourrait posséder, rechercher, et toutes sortes de choses artificielles et qui créent aussi des besoins et des désirs artificiels. Donc, savoir se libérer de l'artificiel et de ses artifices dans une vie naturelle, plus naturelle ou plus proche de la nature, excellent. Et c'est une forme, une façon effectivement de se désinvestir des aspects peut-être les plus prégnants ou les plus extérieurs du matérialisme. S'il vous plaît.
Une question de Sylvie de Toulouse.
Sylvie de Toulouse, bonsoir.
Est-ce que quand vous parlez des enfers, est-ce que ce n'est pas simplement métaphorique ?
Métaphorique, ça dépend ce qu'on appelle métaphorique. L'expression des enfers est une métaphore, mais les douleurs et les souffrances des enfers sont des expériences complètement réelles. Peut-être à ce point, pour conclure, un petit moment de contemplation. toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonne soirée, Sarva Mangalam et au revoir.